Priez pour moi pour ce soir, que ce travail me soit fait par l'Esprit de Dieu, qui me dirige mon travail. Le titre de l'étude, l'installation du peuple hébreu dans le désert, 10e partie. Le but de cette étude, démontrer la puissance que Dieu a pour protéger ceux qu'il a choisis.
Amen.
En autant qu'ils mettent leur confiance en lui.
Amen.
Et son désir à notre Dieu, mais c'est que son peuple et ses enfants acquièrent leur héritage. Amen.
Amen.
La dernière étude, on avait vu le verset d'Exode 15, 23, qui nous dit qu'ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. On avait vu que l'eau de Mara était amère, parce que de l'eau souffreuse et salée était mélangée à cette eau douce. J'ai l'habitude de relire les dernières pages de l'étude que je fais avant celle que je prépare, pour mettre dans le contexte, pas oublier ce que j'ai fait rendu. Parce que souvent, Dieu, il y a d'autres choses à me donner sur ce que j'ai remporté comme verset. Puis des fois, je me disais, j'emmène tout ça, mais j'ai appris que c'est la parole de Dieu.
Amen.
Donc, je vais apporter ce que Dieu m'a mis à cœur.
Amen.
Je veux revenir sur l'exemple du déluge. Je pense que ça fait deux études, j'en parle. Mais le déluge va quand même durer au-dessus d'un an. Si je me souviens, oui, peut-être. Bon, c'est sûr. Au temps du déluge, la terre a été engloutie par une quantité d'eau incroyable. Et cette eau qui a été envoyée sur terre a été mélangée avec l'eau des mers et des océans, qui sont des eaux salées. En partant du fait que l'eau qui était à l'extérieur de l'arche à ce moment-là était amère, donc même si quelqu'un aurait survécu pendant X semaines, X temps, à l'extérieur de l'arche, pour une raison ou pour une autre, il serait mort de soif, quand même. Ou tué tout simplement par les eaux amères, parce qu'on sait qu'on ne peut pas en boire, parce que ça cause la mort des cellules du corps. Ça pourrait peut-être arriver qu'en parlant de la parole de Dieu avec quelqu'un, et que le sujet du déluge entre dans la conversation, que cette personne nous dise: il y en a peut-être qui ont survécu au déluge. Ils n'étaient pas là pour le savoir. On pourrait lui répondre: c'est écrit dans la parole de Dieu, donc c'est vrai. Et on pourrait aussi ajouter que l'eau est vitale, que l'eau qui était à l'extérieur de l'arche était amère, donc salée, et que cette eau ne se voit pas. Car elle cause la mort, et ça a été prouvé médicalement. Donc on vient de lui clouer le fait. On l'a eu, Seigneur, t'as vu? Si je compare cette eau amère avec la parole des hommes, la parole de l'homme est aussi amère. C'est une parole qui amène à la mort. Est-ce que la parole des hommes et leur religion peuvent emmener un autre homme au salut de son âme? La réponse est non, bien sûr. Les gens pourraient sauver dans ce cas-là devant leur télévision, dans leur douche, dans leur auto. Autrement dit, ça se passerait entre Dieu et l'homme. Puis encore là, ça se demandait quel Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, on aurait un méchant problème. Puisque si cela en est ainsi, il faudrait enlever des versets dans la parole de Dieu. Exemple, Romains 18 nous dit que dit-elle donc la parole, elle est près de toi dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Amen.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Amen.
Si je continue au verset 13, on nous dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Et comment y aura qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Lorsque le Seigneur Jésus est venu vers Jean le Baptiste, il a été baptisé, mais devant plusieurs témoins. Et en plus, mais on sait que le Père, l'Esprit Saint, était présent. Donc, le problème est réglé par la parole de Dieu. Et cette parole est parfaite. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien y enlever. Et nous, nous avons eu la foi que Dieu nous a donnée pour croire en lui et en son Fils, pour le confesser devant les hommes, devant un homme de Dieu, primordial. Il y avait des témoins. De toute façon, Dieu a décidé que ça devait être fait ainsi.
Amen.
C'est écrit, donc on y croit.
Amen. Amen.
Dieu nous a démontré une chose par le déluge, c'est que tout homme est voué à la mort de sa chair. Et personne ne peut se soustraire à cette mort charnelle. Mais pour ce qui est de l'âme, pour tous ceux qui croiront en Dieu et en son Fils, le Sauveur du monde, c'est une vie spirituelle qui les atteint. Et Noé et sa famille, ayant cru en Dieu, c'est ce qu'ils ont obtenu. Comment faire renaître son âme? Prendre l'eau de parole de Dieu, naturellement, qui est la vérité. Le déluge a eu lieu comme Dieu l'avait annoncé, donc c'est la vérité. Noé a été un témoignage vivant pour les gens en bâtissant l'arche. Il a démontré aux gens qu'ils croyaient en l'Éternel, son Dieu, en sa parole, et cette famille a été sauvée des eaux mortelles. Dans cette arche, il y avait seulement 8 personnes. Petit troupeau. Très petit. Je vais m'arrêter sur les noms qu'on retrouve par rapport au déluge. Le nombre 8 nous parle de la nouvelle naissance ou la nouvelle création. Le nombre 4 représente la création de l'homme naturel. Si l'on multiplie 4 par 2, parce qu'il y a 2 créations, ça égale 8. Si je multiplie 8 par 4, ça égale 32. Le nombre 32, c'est pour les alliances. N'est-ce pas que l'Éternel a fait alliance avec Noé, après qu'il soit sorti de l'arche, et que Noé eut bâti un autel, qu'il y fit un sacrifice, et que ce sacrifice fut d'une bonne odeur à l'Éternel, à son Dieu. Genèse 9, 12 nous dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. L'arche sera dans la nuit, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui sont sur la terre. Donc, on a 2 créations, une charnelle et une spirituelle. Et à chaque création, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont présents. Donc, on a le nombre 3 qui nous parle de la résurrection ou de la Trinité. Donc, les 3 étaient présents au moment de la création de l'homme naturel, qui est Adam, et ils sont encore présents au moment de la nouvelle création de l'homme spirituel, qui est le jour où il devient un homme nouveau, par le salut de son âme, naturellement. Si je multiplie 3 pour la Trinité et 2, on a comme résultat le 6. Et si on additionne 6 avec les 2 créations, on retrouve le nombre 8 pour la naissance ou la nouvelle création. Je ne vois pas trop vite. Non. Le nombre 6 fait référence de l'influence de Satan sur l'homme. Même si la Sainte Trinité était présente aux 2 créations, Satan est aussi présent durant la durée de vie de l'homme charnel. Donc, de sa première création, Puis il est encore présent durant la vie spirituelle de l'homme sur terre. De sa nouvelle naissance, celle de son âme. On a deux créations, et deux est le nombre pour la division ou la séparation. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, on nous dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » On retrouve ici 5 rapports contraires. Et Dieu nous demande quel est le lien qui peut rassembler ces rapports? Où est-ce possible qu'il y ait une relation entre ces liens? Et on sait que pour Dieu, mais il n'y a aucune possibilité de lien ou de relation possible entre ces 5 rapports, puisqu'ils sont incompatibles entre eux. Dieu lui-même nous démontre qu'il fait une division entre ses pensées et son langage, et la pensée de l'homme et son langage. Parce que les péchés de l'homme lui viennent de Satan. Jérémie 17, 9 nous dit, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Les autres attributs que j'ai nommés tantôt, l'iniquité, les ténèbres, Bélial, l'infidélité, l'idolâtrie, viennent de Satan. Amen. Par contre, Dieu est un Dieu de justice, de fidélité. Il est l'unique Dieu. Et son Fils est en accord avec lui, et le Fils est la lumière du monde. Le nombre 5, je crois qu'on sait tous qu'il nous parle de la grâce de Dieu, et on sait que c'est une grâce que Dieu nous a faite, de nous accorder le salut de nos âmes. Et c'est par amour qu'il l'a fait. Et ce qu'on a à faire comme enfants de Dieu, nous, aujourd'hui, c'est de chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous sont données par-dessus. Ce verset-là, mais c'est le Seigneur lui-même qui l'a donné à ses apôtres. Dans Matthieu 6, 33. Puis David nous dit dans le psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Si on additionne 5, 2, 5, ça égale 10. Qui est le nombre pour la loi? Donc, on a les 5 attributs de Dieu, et on y ajoute les 5 de Satan. Et pourquoi je les additionne ensemble? Parce que Satan est toujours là, comme Dieu. Et de cette façon, il peut imiter Dieu pour berner les enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Adam, le premier homme. Il y avait seulement une loi, et l'homme chute. Donc, dans Romains 3, 20, l'apôtre Paul nous dit, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Est-ce un hasard tous ces versets qui s'embranchent l'un à l'autre dans différentes équations? Non. C'est la parole de Dieu, puis tout ce que c'est qui a été écrit, qui a une concordance dans toutes choses. Je reviens au texte dans Exode 15, 23, 24 qui nous disait « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous? » On sait que le peuple s'est tourné contre Moïse, se trouvait coupable, et pourtant, Moïse n'avait rien à voir là-dedans. C'est le bien du peuple que Moïse veut. Le peuple ne connaît pas encore l'Éternel, leur Dieu. C'est avec le temps qu'on apprend à connaître notre Dieu. Et avec ce même temps, bien, on va apprendre à s'en remettre à Dieu en toutes choses. De toute façon, tout vient de Dieu. Notre âme intérieure va grandir, donc notre foi va le faire même. Ensuite, on va être mis à l'épreuve de plusieurs façons. Et finalement, mais notre confiance en Dieu va grandir. Et peu importe ce qui va nous arriver, on va apprendre qu'en laissant toutes choses dans les mains de Dieu et en gardant le silence, tout va se placer Et on va apprécier de vivre en paix avec Dieu et dans la joie que nous donne cette paix. On a lu le psaume 37,5, puis je le relis. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Amen.
Donc, c'est Dieu lui-même qui va agir. Alors, pourquoi se casser la tête? Le frère Christian nous en a déjà parlé de cela. Et David nous le dit aussi. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira.
Amen.
La vie d'un enfant de Dieu, c'est pas de tout repos. D'ailleurs, le repos est amour. Les sœurs, on en a des symboles au dimanche. Mais en attendant, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, Dieu a beaucoup de choses à changer dans nos vies. Ici, Dieu va démontrer au peuple que Moïse n'avait rien à voir dans cela et que cet homme a aussi besoin de l'aide de Dieu, tout comme eux. Un homme reste un homme. On continue dans Exode 15-25 qui nous dit « Et Moïse cria au Seigneur, et le Seigneur lui montra un arbre, lequel, lorsqu'il le jeta dans les eaux devinrent douces. » Qu'est-ce que Moïse aurait été capable de faire ici, sans l'aide de l'Éternel son Dieu? Seul l'Éternel pouvait lui donner le moyen de changer la qualité de ses eaux.
Amen.
Alors Moïse a crié à l'Éternel qui lui a dit quoi faire.
Amen.
Moïse l'a fait. Les eaux sont devenues douces et buvables. En même temps, Moïse montrait au peuple comment agir lorsqu'une épreuve leur arrivait. Remettez tout entre les mains de Dieu.
Amen.
Qu'est-ce qui a suivi cette étape dans la vie du peuple? Je continue le verset 25 qui nous dit « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. » Ce peuple a été choisi pour être le peuple de Dieu. Ils viennent d'être libérés de l'esclavage du monde, et l'Éternel leur donne des lois, des ordonnances, et ils vont être mis à l'épreuve. Je crois que chacun d'entre nous savons qu'on ne peut pas appartenir à Dieu sans devoir suivre ses règles, ses ordonnances, ses commandements et être éprouvé. Comme j'ai dit tantôt, le peuple d'Israël a beaucoup à apprendre avec les temps de Dieu. C'est avec le temps que tout se fait. Puisque tout est au temps de Dieu, si on s'applique à connaître Dieu, à s'éloigner du mal, à vivre de sa parole, à laisser son esprit nous changer, à faire les œuvres qu'il place devant nous, on va être agréable à Dieu.
Amen.
Et tout cela nous amène à vivre en paix avec Dieu.
Amen.
On est bien dans la paix de Dieu.
Oui, Dieu.
Mettons notre confiance en Dieu, il agira. Nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, on n'a pas moins à faire qu'Israël, sauf que c'est d'une façon différente. Mais on a le même Dieu.
Amen. Amen.
Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a été pendu au bois, sur la croix. Et par ce geste, ceux qui, comme nous, ont été choisis, ont été conduits vers Christ. Puis nous sommes devenus ses esclaves, mais libres de le servir ou non. Et nous sommes aussi devenus ses frères et sœurs, gloire à Dieu. Puis nous avons été délivrés de l'amertume des gens du monde. Libéré de son esclavage. Puis le Nouveau Testament nous a été écrit pour apprendre à connaître Dieu et à suivre Christ.
Amen.
Et finalement, nous sommes mis nous aussi à l'épreuve.
Amen.
Si on regarde ça de près, mais on a les instructions, donc la parole de Dieu. On a le modèle du Seigneur Jésus lui-même.
Amen.
Et tout ce qui manque, c'est un cœur bien disposé. Et ça, ben, c'est chacun notre choix.
Amen.
Si on regarde le parcours d'Israël et le nôtre, mais ça démontre une chose, que nous formons un cœur avec l'Israël de Dieu. On vit les mêmes choses.
Amen.
La différence, c'est qu'eux voyaient leur adversaire, mais les nôtres sont invisibles. Mais ils sont là.
Amen.
Nous, nous avons lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ne nous décourageons pas. C'est écrit dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Amen.
C'est encourageant des versets comme ça. Et ça nous donne de l'assurance. Que si l'on s'en remet à Dieu le Père et son Fils, eh bien le jour où le Seigneur Jésus viendra chercher son Église, nous serons à notre place, dans cette Église, et on va se retrouver en haut, l'épouse de Christ pour l'éternité.
Amen.
Je pense que ça vaut la peine.
Amen.
Je n'irai pas plus loin avec le verset 25, mais si Dieu le permet, j'aimerais y revenir. Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres choses dans ce verset-là. Si Dieu veut me donner les réponses à mes questions, je reviendrai. Je poursuis avec la lecture d'Exode 15 au verset 26, qui nous dit, il dit, Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Avez-vous remarqué comment chacune des phrases commence avec un « si » Ça, c'est parce qu'il y a une condition. Si tu écoutes ma voix, donc, c'est une écoute volontaire de la part de chaque personne, de chaque enfant de Dieu, que Dieu veut. Ça soit fait volontairement. Si tu fais ce que je dis, donc, c'est de faire volontairement la volonté de Dieu en appliquant sa justice dans notre vie. Si tu prêtes l'oreille à mes commandements, donc, c'est d'approuver les commandements de Dieu et consentir à les appliquer dans notre vie.
Amen.
Si tu observes mes lois, donc, de se soumettre aux lois de Dieu, de se conformer et de les pratiquer. Pas toujours évident, mais on essaie.
Amen.
Je regarde tout ça, là, puis je me demande si on a assez de notre vie ici-bas pour tout appliquer ça dans notre vie. On essaie.
Amen.
Dieu est là, allons à lui. Ce peuple qui appartient à Dieu a des conditions à respecter pour demeurer dans les grâces de l'Éternel leur Dieu. C'est la même chose pour nous aujourd'hui.
Amen.
On n'a rien pour rien avec Dieu. De toute façon, c'est nous qui lui sommes redevables. Dieu est un Dieu de justice, et lorsqu'on s'éloigne de lui, mais pour une raison ou pour une autre, on va en payer le prix. Dieu nous aime.
Amen.
Il nous châtie comme il châtie ses enfants. Mais c'est pour notre bien, et je rends gloire à Dieu qu'il en soit ainsi.
Amen.
On vient de lire le verset, le 26e verset, le 26e verset. Le nombre 26 nous parle de l'Évangile de Christ, ou de la Bonne Nouvelle. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1:8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur,
Amen.
Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Ces hommes, les apôtres, mais ils avaient à combattre tous les jours pour la parole de Dieu, pour l'annoncer. Et leur vie était volontairement dévouée à Dieu et à laisser entre les mains de leur Dieu. Ils étaient même heureux de souffrir pour l'Évangile et ils en rendaient gloire à Dieu. Nos ministres aujourd'hui, eux aussi ont reçu le ministère de l'Évangile. Donc, ils ont une énorme charge de travail. Et bien souvent, ils doivent avoir un poids sur les épaules, mais peu importe ce qui est dit, ce qui arrive, je suis sûr qu'ils rendent gloire à Dieu. Pour tout. Et nous, enfants de Dieu, on
a chacun notre croix à porter,
à tous les jours.
Et témoigner l'Évangile de notre Sauveur, mais est aussi l'une de nos tâches principales. Amen. N'est-ce pas que lorsque... N'est-ce pas que lorsqu'on veut témoigner l'Évangile à quelqu'un, bien souvent on souffre des répliques qui nous sont faites. Parce qu'il y en a qui essayent de ridiculiser le nom de notre Sauveur.
Amen.
Ou parce qu'ils refusent d'y croire, ou lorsqu'on agit différemment des autres, soit en parole ou en action, on fait rire de nous. Mais ne nous laissons pas abattre.
Amen.
Par leur parole ou leur agissement, mais rendons gloire à Dieu d'avoir agi selon son esprit dans ces moments-là.
Amen.
Remettons le bien. Remettons le bien pour le mal.
Amen.
Nous aussi, on était ignorants,
amen.
Mais qui sait, ces témoignages que l'on va apporter ne tombera pas dans le bon terre. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci encore de vos prières et aimons-nous les uns les autres.
Dans Éphésiens 2, au verset 4, il est écrit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. »
Amen.
C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Amen.
Et au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Oui, gloire à Dieu.
Si on est ici ce soir et on est sauvé, c'est pas à cause du bien qu'on aurait pu avoir fait ou quoi que ce soit. C'est écrit, c'est à cause de la miséricorde de Dieu.
Amen.
À cause du grand amour dont il nous a aimés. Dieu n'a pas aimé juste nous autres qui est sauvés. Dieu aime tout le monde. Son amour est pour tout le monde.
Amen.
Mais il faut accepter cet amour-là. Il faut accepter cette miséricorde-là. Miséricorde, une grâce qui nous est faite, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau qui nous est fait.
Amen.
Puis Dieu, qui est riche en miséricorde, il n'y a pas juste un petit paquet de miséricorde. Mais il y en a, ça déborde. Il y en a pour tout le monde.
Amen.
Dieu ne ferme pas la porte à personne. Dieu accepte n'importe qui qui veut croire que Jésus est mort à sa place.
Amen.
Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Nous qui étions morts par nos offenses, chaque homme sur cette terre, à cause du péché, spirituellement, il est mort. On a entendu parler tantôt, ça prend une deuxième création, de nouveau. C'est au travers de l'Évangile, par la prédication de l'Évangile, qu'on peut naître de nouveau. Et c'est un cadeau qu'il nous a fait. Si t'es sauvé ici, on a déjà reçu ce cadeau-là, on a déjà accepté, puis on a à recevoir la miséricorde de Dieu continuellement dans nos vies. On a besoin continuellement. Si t'es pas sauvé, Dieu veut que tu sois sauvé. Mais ça dépend juste de toi. Si tu veux recevoir l'amour de Dieu, tant que votre église soit enlevée, aujourd'hui, là, l'homme a la possibilité, il a un choix. Il entend l'Évangile est simple, c'est un cadeau qui vient de Dieu. L'homme, il a le choix de l'accepter ou de le rejeter. Fait que l'église soit enlevée, va envoyer une puissance d'égarement sur ceux, à ceux qui n'ont pas reçu l'amour, la vérité pour être sauvés. Rendu là, tu n'as même plus le choix, tu vas être aveuglé, puis ça en est fait pour toi. Aujourd'hui, si tu veux être sauvé, toi que Jésus est mort à toi pour tes péchés, toi que Jésus est le Fils de Dieu, confère avec ce Seigneur Jésus et il sera sauvé.
Amen. Amen.